Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens de terminer de lire un livre d'un certain Denis Marquette intitulé « Le Testament du Roc ». Du roc. Le roc, c'est l'apôtre Pierre, donc ce n'est pas la danse que l'on pratique dans les salons. Et c'est une façon romancée, le récit de la rencontre de l'apôtre Pierre avec le Christ. C'est, pourrait-on dire, un cinquième évangile. Et ce qui m'a frappé dans ce récit, et qui me fait penser à l'évangile aujourd'hui de Dieu et César, c'est la difficulté que Pierre avait, et avec lui les autres apôtres, à trouver le vrai but de la vie, et comment entendre le message d'amour du Christ. Le roman nous décrit d'abord la joie des disciples et des foules devant les enseignements du Christ, devant ces paroles qui rompent avec le discours ambiant de râles, de plaintes, devant la difficulté de la vie sous l'occupation romaine. Et puis, bien sûr, il y avait aussi les guérisons, les miracles que le Christ faisait. Mais il y a aussi le questionnement intérieur que suscitent ces paroles. Au départ, c'est bien sûr une exaltation, car il voit en Yeshua un homme puissant qui va chasser l'envahisseur, les Romains. Et puis vient la déception. Lorsque, pressé par ses disciples de parler aux foules et poussé à prendre la tête d'une armée qui chasserait dehors les Romains, Yeshua ne répond pas comme il l'espère. Il leur parle d'un royaume d'amour, d'un royaume non pas extérieur à l'homme, où l'homme reprendrait le pouvoir et où la force triompherait, mais d'un royaume intérieur où chacun entendrait son unique désir au fond de lui, qui est de retrouver son Créateur, où chacun se laisserait toucher et habiter par l'amour de Dieu, où chacun, comme le Christ, accomplirait la volonté de son Père. Un royaume intérieur où pour rentrer, il faudra d'abord se vider, sortir tout ce qui nous encombre, faire de la place en soi, devenir faible aux yeux des hommes, pour que la puissance de Dieu puisse agir. L'auteur, qui est philosophe et thérapeute, nous montre, comme je vous disais, des moments d'exaltation de cette nouvelle vision du monde, mais aussi des doutes, des peurs, peur de lâcher prise, peur de changer, d'oser s'en remettre à Dieu pour tout. Et c'est toute la lutte d'un Pierre, et à travers Pierre, c'est aussi notre lutte. Donc c'est toute la lutte d'un Pierre qui, lorsque le Christ est là, se sent transformé, appelé à le suivre, et puis les moments de doute lorsqu'il n'est pas là. Lorsque les prêtres, les scribes, les bien-pensants viennent le mettre en garde de ne surtout pas abandonner la loi de Moïse s'il veut être sauvé. Et il y a tous les pièges que ceux qui perdraient leur puissance, leur autorité sur les autres, viennent tendre à Yeshua pour le discréditer aux yeux de la foule et des disciples, pour empêcher que vienne le royaume d'amour de Dieu. Je vous dis, si vous avez l'occasion, lisez ce livre. C'est bien écrit. C'est une odyssée de la foi qui nous invite à réfléchir sur notre propre foi. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous sommes devant le récit, justement, d'un piège des pharisiens qui voudraient chasser l'occupant romain et pour qui la loi de Moïse appliquée à la lettre est la base de leur puissance, le roc sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Et ils s'allient aux Hérodiens, les hommes d'Hérode, ce sont ceux qui gouvernent la Judée pour le compte de Rome. Et ils font front contre Jésus, car l'un comme l'autre, pensent qu'ils auraient beaucoup à perdre avec le royaume de Dieu. Le Christ les dérange, car il n'hésite pas à mettre en lumière les dérives de ces deux camps, qui veulent surtout maintenir leurs privilèges. Et ils vont lui poser une question piège, une question qui, à leurs yeux, ne peut que discréditer le Christ. À la question « Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» ils attendent une réponse duale, soit oui, soit non. Et si Jésus répond oui, il passera aux yeux de la foule comme un collaborateur des Romains, et pour les Juifs, les Romains, ce sont l'envahisseur, et s'il répond non, il passera pour les Hérodiens comme un opposant au pouvoir en place, et il sera arrêté pour incitation à la rébellion face à l'autorité. Comme d'habitude, dans ces cas-là, Jésus se met à un autre niveau. Il sort de l'horizontalité des choses pour nous amener à ce qui nous fait vraiment vivre, à notre véritable identité. Et il va ainsi dans une troisième voie. Il profite à nouveau de leurs questions pour compléter son enseignement et rappeler la destinée de l'homme. Et il leur dit « De qui est cette image, cette effigie ?» Question apparemment innocente et dont la réponse est évidente. Et les pharisiens, d'ailleurs, y répondent tout à fait normalement. De César. Et sur cette réponse, le Christ va bâtir sa réponse. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il nous interpelle ainsi et nous rappelle que s'il y a César dans ma vie, et César symbolise la vie du monde, Dieu a aussi une place que je suis invité à lui donner. Quelle place est-ce que je donne à Dieu dans ma vie de tous les jours ? Au milieu de toutes mes préoccupations, mes obligations professionnelles ou familiales nombreuses et variées, au milieu de mes relations, qu'est-ce que je dois lui rendre? De quoi suis-je redevable vis-à-vis de Dieu? Bien, je crois qu'on peut dire de tout et de rien. De tout, parce que tout existe par lui. Tout a son origine en lui. Tout vient de Dieu. La vie, la nature, le cosmos, l'intelligence et même César. Tout est habité par Dieu. Si je prends conscience de ces dons, je ne peux entrer que dans une attitude d'humilité, de gratitude et de bénédiction. Et d'un autre côté, je peux dire aussi que je ne lui dois rien, car tous ces dons m'ont été donnés par amour, inconditionnellement. Nous comprenons ainsi que rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est pas une obligation morale, mais c'est une attitude d'amour et de foi. Que rendre à Dieu est ce qui nous ouvre, à notre profondeur, à notre vocation d'homme, qui est d'aimer comme nous sommes aimés de Dieu. Que rendre à Dieu ce qui est à lui, c'est entrer dans une circulation d'amour, dans une circulation, une relation, un échange d'amour entre tous. Et vous savez que plus nous aimons comme le Christ, plus nous devenons semblables à lui. Comme César mettait son effigie sur sa monnaie pour montrer sa puissance et le rappeler sans cesse, l'effigie de Dieu, c'est son amour, c'est sa seule et unique puissance, et il l'a mise en nous pour que nous lui devenions de plus en plus ressemblants. Rendons à Dieu ce qui est son essence, l'amour. C'est-à-dire, faisons de l'amour notre façon d'être au monde et de vivre. Ce sera aussi la bonne façon de rendre à César, à la société, ce qui lui revient, la joie et la paix. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.